Mais je vais quand même récapituler un petit peu ce dont on a parlé la semaine dernière. Donc, pour tous les habitués de Netflix, Disney+ ou Amazon Prime, désolé, vous n'allez pas pouvoir ignorer le rappel de l'épisode précédent. Mais je tiens à vous rassurer aussi, hier, j'ai mangé avec des amis et ils m'ont dit, s'il te plaît, Florian, ne fais pas 15 minutes de rappel pendant ta prédication, sinon ça risque d'être terriblement long. Donc, ils m'ont fait travailler jusque tard pour que j'essaye de réduire un petit peu la dose. Mais pas d'inquiétude, je vais être bref. Donc, la semaine dernière, découvrir Dieu dans nos transitions. On a découvert ensemble que la transition était cette liaison entre notre présent connu et sécuritaire et notre avenir inconnu et un peu plus dangereux, un peu plus, on va dire, inquiétant. On a vu que la transition, c'était vraiment cette étape où quand on lève le pied d'une marche, on était dans une situation où on était en déséquilibre, en balance. On allait vers quelque chose de bon, vers quelque chose de meilleur, mais on quitte notre sécurité, on quitte notre confort. Et on a vu par la suite aussi, à travers du passage dans Josué 1, que Dieu est pleinement conscient des deuils que nous vivons dans nos transitions. Mais plus encore, il est conscient de nos deuils, mais il nous donne l'espoir. Il y a une bonne nouvelle. Certes, on souffre, certes, c'est quelque chose, des moments difficiles, des moments compliqués, mais il y a une bonne nouvelle derrière parce que Dieu a un projet, a un plan pour nous qui se cache derrière nos transitions. Et c'est bon, je pense, de se rappeler que Dieu a toujours un projet pour nous. Dieu a toujours une œuvre pour nous derrière nos saisons un peu d'inquiétude. Et ce matin, alors que nous entrons dans notre deuxième partie du message Découvrir Dieu dans nos transitions, j'avais vraiment à cœur qu'on puisse découvrir ensemble le Dieu qui reste près de nous dans nos transitions, mais aussi découvrir Jésus dans nos transitions. Parce que je pense que c'est important qu'on apprenne à découvrir Jésus dans nos transitions. Et enfin, on va terminer par découvrir le cœur de Dieu pour la transition de cette église. Et on va relire notre passage que j'avais pris dans Josué 1. Et on va recommencer au verset 1. Il est écrit: Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun et assistant de Moïse: Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Et Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous donne vie, qui nous donne l'espoir. Nous avons l'assurance, Père, que tu es avec nous dans nos transitions. Nous avons l'assurance que tu es à côté de nous. Père, prends mes paroles, prends tout le contenu de ce message et sers-toi-en pour ta gloire. Réconforte ceux qui ont besoin d'être réconfortés et encouragés ce matin. Et que toute la gloire te revienne à toi seul. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Et toute l'Église dit Amen et Amen. Mon premier point ce matin, découvrir le Dieu qui reste près de nous dans nos transitions. La semaine dernière, j'avais un petit peu parlé du contexte de ce passage, mais j'ai envie d'y replonger encore un petit peu avec vous. Imaginez Josué, vous êtes à la place de Josué. Josué doit prendre la suite de Moïse. Josué doit être à la tête d'un peuple qui a été infidèle dans le désert. Il passe de l'état d'un suiveur à un leader. Il doit amener les gens du désert au pays promis. Il doit amener les gens du désert, de la tranquillité, de la sérénité, de leur confort, à la guerre pour posséder le pays. Il doit même retourner sur son lieu d'échec. On peut lire dans l'histoire, dans Nombre 13 et 14, si vous prenez des notes. Moïse, on voit dans l'histoire que Moïse a envoyé des éclaireurs dans le pays, dont Josué. Donc, ces éclaireurs partent dans le pays pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Et Josué revient tout content. Les gars, il y a de la bonne poutine là-bas. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille prendre ce pays. Dieu nous donne ce pays, ça va être génial d'y aller. Il y a tout ce qu'il nous faut. Sauf que Josué est accompagné d'autres personnes qui ont un autre discours. On ne peut pas y aller. On ne peut pas. Ces gens là-bas vont nous écraser, ce sont des géants. Ils vont nous écraser comme des insectes. On ne peut pas y aller. Josué n'a pas réussi à être le leader de cette situation. Josué n'a pas réussi à encourager le peuple, à donner une nouvelle vision. Il n'a pas réussi à porter le peuple. Et maintenant, Dieu lui demande de leader ce même peuple. Il doit retourner sur son lieu d'échec. Et peut-être que c'est ton cas ce matin. Peut-être que ce matin, tu sens que Dieu t'amène, te guide vers cette saison de transition où tu dois revenir dans ce lieu d'échec. Ou peut-être même que Dieu t'amène dans une transition qui te dépasse totalement. Tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas ce qui va se passer. Ces choses que Dieu te demande de porter sont beaucoup trop lourdes pour toi, comme elles étaient trop lourdes pour Josué. Est-ce que vous imaginez un petit peu le stress, la pression qui s'est abattue sur Josué ? Mais Dieu lui a fait une promesse. Dieu lui a fait une promesse. Et on va le relire au verset 5. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Dieu, le Dieu créateur, celui qui a tout créé, celui qui tient l'univers dans la paume de sa main. Yahweh, celui qui s'est déclaré comme étant « Je suis », lui promet qu'il sera à côté de lui, qu'il ne le laissera jamais. Que personne ne pourra l'atteindre parce que Dieu demeure près de lui. Et laisse-moi te dire ce matin que dans tes transitions, tout comme Josué, tu peux compter sur la fidélité de Dieu. Tu peux compter sur cette promesse que rien ne pourra t'arracher de sa main parce qu'il veille sur toi. Parce qu'à partir du moment où tu as été appelé enfant de Dieu, rien ne pourra t'arracher à la main de ton Père. Dieu le dit à Josué et il le redit. N'aie pas peur, prends courage. N'aie pas peur, prends courage. N'aie pas peur, prends courage. Je pense que c'est important de s'arrêter sur ça parce que dans nos transitions, il arrive un moment où nous pouvons être effrayés, comme Josué. Et je sais que nous avons un peu traité de la peur la semaine dernière, mais si Dieu insiste par 3 fois dans ce passage, je pense que vous ne m'en voudrez pas si on y attaque une 2e fois sur le sujet. Je pense que si Dieu le répète plusieurs fois, c'est parce que parfois nous sommes tellement effrayés que ces paroles « N'aie pas peur, je suis avec toi », ça n'arrive pas à prendre racine dans notre cœur. On est tellement effrayés que quand Dieu nous dit « Je suis avec toi », ces paroles font juste un rebond dans notre cœur. Ça n'arrive pas à prendre racine. Et ça m'a fait penser un petit peu à la parabole du semeur que Jésus donne, en Matthieu, on le voit en Matthieu, on le voit en Marc et en Luc. Et Jésus raconte l'histoire d'un homme qui sort dans son champ et prend des graines et il commence à les lancer. Et la semence va un petit peu partout dans de la bonne terre où ça porte du fruit, où ça pousse, mais aussi dans des terres un petit peu plus sèches où la graine n'arrive pas à prendre racine, et la plante n'arrive pas à pousser. Et c'est exactement la même chose quand Dieu nous dit « N'aie pas peur, prends courage ». Notre cœur est tellement sec à cause de la peur, à cause de la terreur, que la promesse qui est avec nous n'arrive pas à prendre racine dans notre cœur. Mais peut-être que parfois, on prend. Ça nous fortifie, ça nous donne courage. Et il y a certaines graines qui sont tombées dans la bonne terre, mais quand elles ont commencé à pousser, il y avait des ronces au-dessus d'elles. Elles n'ont pas pu vraiment pousser et porter le bon fruit parce que les ronces les étouffaient. Et c'est notre cas aussi parfois où est-ce qu'on reçoit la parole, n'aie pas peur, on le prend, mais après on se rappelle de toutes nos difficultés, de toutes nos peurs, et on n'arrive pas à ce que cette promesse-là porte du fruit. Et la raison pour laquelle nous connaissons cette peur, cette angoisse, la raison pour laquelle ces terreurs parfois existent, c'est parce que nous avons le focus, parce que nous avons le regard, la vision, non pas vers Dieu, mais vers l'inconnu. Nous n'avons plus le focus sur ce que nous connaissons de Dieu, qu'il est un bon Père, qu'il nous aime, qu'il est fidèle, mais on a un focus sur ce que nous ne connaissons pas de l'avenir, sur l'inconnu, sur toutes ces frayeurs, je ne sais pas comment ça va se passer demain. La façon de changer notre peur en paix, la façon de changer notre crainte en sérénité, c'est de changer notre regard sur Dieu, c'est de changer notre vision, c'est de changer notre focus. On arrive souvent devant Dieu en disant « Seigneur, donne-moi plus de précision. » Et ne me regardez pas comme ça, je sais que vous l'avez déjà fait. « Seigneur, éclaircis-moi un petit peu l'esprit, je ne sais pas, révèle-moi ton plan, enlève mes angoisses, enlève mes peurs, montre-moi, révèle-moi. » J'aime ce que Stephen Furtick a dit un jour. Il a dit qu'il ne faut pas demander à Dieu d'éliminer, mais d'illuminer. Quand on reste dans cet état de prière à dire « Oh Dieu, élimine mes peurs, élimine l'inconnu, élimine ce qui est autour de moi, change mon incompréhension », on garde les yeux fixés sur nos peurs, sur nos craintes, sur nos doutes. Et plus on va avoir les yeux fixés sur cet inconnu, plus ça va nous paralyser parce qu'on va y penser constamment, ça va être constamment dans notre tête et on ne va pas réussir à avancer. Mais à l'inverse, si tu commences à dire « Seigneur, viens illuminer ma vision de toi. Viens me montrer qui tu es. Viens illuminer ma compréhension de qui tu es, d'à quel point tu es grand, à quel point tu es fidèle. J'ai besoin de voir à quel point tu m'aimes. » Ton focus ne va plus être sur tes craintes qui te tirent vers le bas ou qui vont te paralyser, mais sur Dieu. Et ça va te donner une liberté d'avancer, une liberté de passer au-dessus de tes peurs, de tes craintes, parce que ton focus ne sera plus sur tes peurs, mais sur Dieu. J'aime vraiment ce que le psaume 43 au verset 3 nous dit. « Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. Illumine-moi. » C'est vraiment ce que le psalmiste dit ici. « viens illuminer ma révélation que je veux avoir de toi. » Tu n'as pas besoin de savoir tout ce qui va se passer dans ton avenir. Tu n'as pas besoin de savoir quel chemin absolument tu dois prendre à 100%, comment tu vas arriver au bout de certains de tes processus. Tu n'as pas besoin de savoir qu'est-ce que Dieu a prévu spécifiquement pour toi. Tu as juste besoin de savoir que Dieu est à tes côtés. Tu as juste besoin de savoir que peu importe les tempêtes qui vont arriver demain, Dieu reste à côté de toi et il ne te lâchera jamais. Tu es toujours son enfant et il veut toujours prendre soin de toi parce qu'il t'a créé. Il t'a créé. Tu es précieux et précieuse pour lui. Je connais un couple qui avait un fils qui était terriblement loin de Dieu. Mais vraiment, il ne voulait rien entendre de Dieu, il ne voulait rien entendre de l'Église. Il se rebellait même contre l'Église, il se rebellait. Il avait des paroles dures envers l'Église. C'était un rebelle. Et ce couple vivait dans le sud de la France. Et ils ont dû déménager. Ils ont dû quitter le sud de la France pour aller dans la région parisienne. Donc ça fait quand même 600 kilomètres. Leur fils avait décidé, il avait dit « Non mais moi je ne vous suis pas là, moi je veux rester dans le sud. Je veux rester dans le sud, il fait beau, il fait chaud, autant y rester. » Et cette transition-là de vie fut extrêmement compliquée pour la mère de ce fils. Ça fut extrêmement compliqué parce qu'elle pleurait tous les jours. Elle avait les yeux tous les jours sur cette situation, sur cet inconnu pour son fils en se disant « Mais je l'ai quitté, je l'ai laissé, mais il n'aura plus d'accroche avec l'Église. Qu'est-ce qu'il va devenir sans nous? Qu'est-ce qu'il va faire sans nous? Je ne sais pas comment ça va se passer pour lui. Parce que quand on était là, on avait peut-être une chance de l'amener à l'Église, mais là, elle avait les yeux constamment fixés, elle pleurait tous les jours parce qu'elle regardait tout ce problème-là, toutes ces peurs-là, toutes ces inquiétudes-là et tout cet inconnu. Et un jour, Dieu lui a révélé, « Ne regarde plus à cette situation. » Mais regarde à moi. Regarde à moi. Je suis un bon père. Donc n'aie pas peur et fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et elle a commencé à fixer non plus son regard sur les inquiétudes, mais sur la fidélité de Dieu, sur sa grandeur, sur sa bonté, sur sa majesté. Elle a commencé à lui faire confiance et à lâcher prise. Elle a commencé à retrouver la foi, la paix. Et cette histoire date d'il y a 8 ans. Et aujourd'hui, le fils de cette femme est en train de vous raconter le témoignage de sa mère. Dieu a été fidèle. Dieu a été bon. C'est mon histoire, mais c'est aussi son histoire. Ne fixe pas ton regard sur tes peurs. Nous devons comprendre qu'on n'a pas besoin de tout savoir. On n'a pas besoin de tout comprendre. On a juste besoin de fixer nos yeux sur Dieu, sur qui il est, de croire qu'il ne nous abandonnera jamais. Mais aussi, il faut non seulement chercher à découvrir encore plus Dieu, mais pas uniquement. En fait, une des clés dans nos transitions, dans l'inconnu de la transition, c'est de devoir apprendre à rechercher et à ressembler plus en plus à Jésus. Parce que plus tu vas chercher à ressembler à Jésus, plus non seulement tes peurs vont s'éloigner, mais en plus tu vas commencer à vouloir lui ressembler, à essayer de prendre les décisions qu'il prenait, à essayer d'avoir la vie qu'il avait. Et ainsi, ta transition va se passer, je dirais pas parfaitement parce que rien ne se passe parfaitement, mais ça va se passer dans une certaine sécurité parce que tu dis, OK, Jésus aurait fait ça. OK, Jésus veut ça. Alors je me lance. Tant pis, ça me fait peur, mais je me lance. Et ça va être cela mon deuxième point, découvrir Jésus, la solution de nos transitions. Quand on reprend notre histoire du début avec Josué, c'est important de comprendre un point qui est assez essentiel. Le peuple n'aurait jamais pu rentrer dans le pays promis avec Moïse. Alors ceux qui connaissent parfaitement leur Bible diront, bah oui, on le sait. Dieu lui a demandé de faire quelque chose et puis il a désobéi, il a été impatient, il a frappé 3 fois un rocher ou 2 ou 4 ou 6, je sais plus, mais il a frappé, il a été impatient et puis Dieu l'a puni, il lui a dit, bah, tu ne rentreras pas dans le pays. Certes, il y a cette histoire-là. Mais malgré ça, il faut comprendre que Moïse est le symbole de la loi. Moïse est le symbole de la religion. Et la loi, la religion ne nous feront jamais passer nos transitions. On ne pourra jamais avancer dans nos transitions uniquement en nous reposant sur la loi et sur la religion. Notre espoir ne se trouve pas en ça. Et hélas, Josué, c'est ce que nous appelons en théologie un type de Christ. Et pour définir ce que ça veut dire, type, c'est pour décrire en fait un symbole futur et annonciateur de ce que Christ va représenter, de l'œuvre de Jésus. Même le nom de Josué, c'est l'équivalent en hébreu de Jésus, Yeshua, Josué, Jésus. Et Josué signifie salut. Il faut comprendre ici que le peuple ne pouvait passer le Jourdain et entrer dans ce pays promis, le peuple ne pouvait avancer dans leur transition qu'en suivant Josué, qu'en ayant une relation avec Josué, qu'en ayant confiance en Josué. Pour passer nos transitions, il faut faire pareil, mais avec Jésus. Il faut faire confiance à Jésus. Comme le peuple avait confiance en Josué, il faut faire confiance à Jésus. Il faut avoir une relation avec Jésus. Il faut avoir la foi en Jésus qui va nous amener dans de bons sentiers. Pour sortir de nos transitions, pour trouver notre courage, pour trouver la foi, pour trouver la confiance, pour trouver la paix, cela ne demande qu'une seule personne, Jésus. Nous avons besoin de sa grâce, on a besoin de son amour, on a besoin de sa croix, on a besoin de son sang pour passer au mieux toutes nos transitions. Et si tu es en transition ce matin, si tu ignores où aller, rattache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Il est le seul qui pourra t'aider à avancer dans tes transitions. Jésus est notre espoir. On le chante tous les dimanches matin, mais c'est le cas. Il est notre espoir. Peu importe l'inconnu dans lequel on marche, il est notre espoir, il est notre lumière. Mais aussi, il est non seulement notre espoir parce qu'il nous accompagne dans nos transitions, mais aussi, il est une des clés, une des ressources, une aide parfaite pour nous aider à accomplir ce que Dieu veut que nous fassions. Parce que Dieu ne nous promet pas uniquement « je suis pour toi, je suis pour toi, t'inquiète pas, t'as rien à faire, t'as juste à avoir confiance en moi ». Non, non. Dieu demande quelque chose à Josué qui est primordial. Dieu donne un ordre à Josué. Et on va afficher le verset 7 et 8. Je ne vais pas les relire parce qu'il est un peu long. Mais pour faire bref, Dieu demande à Josué, « Médite ma parole jour et nuit. Attache-toi à mes commandements. Attache-toi à ma loi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Garde ma loi près de toi. » Et moi, quand j'ai commencé à étudier ce verset, j'étais découragé. J'ai été découragé parce que je suis incapable de ne jamais m'écarter de la loi. Je suis incapable de ne jamais m'écarter de ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Et ne me regardez pas comme ça avec un regard accusateur, s'il vous plaît. J'ai besoin de la grâce. Un pasteur a besoin d'autant de grâce que chaque personne dans la salle, vous savez. L'obéissance est extrêmement difficile. Même juste le principe de méditer jour et nuit. Méditer. Méditer, ça signifie vraiment ruminer, mâcher, mastiquer. C'est-à-dire un petit peu les vaches, quand elles mangent l'herbe, puis elles recrachent, puis elles remangent, puis elles recrachent, puis elles remangent, et elles mastiquent l'herbe. Et ça favorise un petit peu leur digestion. Méditer jour et nuit. Mais je sais pas pour vous, mais on va être pratique, hein. Moi, la nuit, je dors. Moi, la nuit, je dors. Je ne médite pas. Et c'est confrontant pour moi de me dire, même la nuit, je dois méditer. Parce que la nuit, je peux méditer sur les films que j'ai vus, mais méditer sur la parole de Dieu. Mais Jésus est mon espoir. Jésus est mon espoir. En Jésus, tu peux trouver l'espoir, un pas à la fois, de trouver la solution, de savoir comment obéir à Dieu. En Jésus, tu peux trouver l'espoir parce que Jésus est venu sur cette terre. Jésus a marché sur cette terre. Jésus, pleinement homme et pleinement Dieu, a respecté parfaitement la loi, a respecté parfaitement les commandements de son Père. Et parce qu'il a parfaitement accompli la loi, parce qu'il a parfaitement obéi à la loi, il sait exactement comment nous aider à obéir aux commandements de Dieu, à avancer avec les principes de Dieu. Il sait, il a les clés, en lui se trouvent les clés pour savoir comment obéir aux commandements de Dieu. Il a accompli ce que nous sommes incapables d'accomplir. Il a accompli ce que nous sommes incapables d'accomplir par nos propres forces. Il est le seul capable de nous apprendre à obéir parfaitement la loi de Dieu. En Jésus, j'ai non seulement la grâce du pardon de mes échecs, mais j'ai aussi la grâce de savoir comment obéir aux commandements de Dieu. Grâce à son esprit, il va commencer à... on va le faire comme ça. Plus tu te rapproches de Jésus, plus il va commencer à imprégner son identité en toi, qui il est, son amour, sa passion pour la loi, sa passion pour Dieu. Et plus tu vas t'approcher de lui, plus il va commencer à inscrire dans ton cœur ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu veut que tu fasses, ce que Dieu veut que tu accomplisses tous les jours. Aimer son prochain. C'est dur, hein, d'aimer son prochain. Ne pas calomnier, ne pas parler dans le dos, ne pas être mauvais envers les gens, ne pas juger, ne pas condamner. C'est compliqué, mais plus tu t'approches de Dieu, plus tu te rapproches de Jésus, et plus il va commencer à façonner son identité dans ta vie, dans ton cœur. Et c'est ça la beauté de la grâce de l'Évangile, c'est ça la beauté de la grâce de Jésus. J'aime ce que Jean-Baptiste a déclaré en Jean 3, 30. Il a dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Et l'ordre est vraiment important ici. En le faisant croître dans ma vie, je vais commencer à diminuer. En faisant croître mon amour pour lui, mon amour pour des choses qui sont mauvaises, mes mauvais réflexes vont commencer à diminuer. Mais il faut que je le fasse croître d'abord. Il faut faire croître Jésus dans ta vie. Plus tu vas le faire croître, même le magnifique dans tout ça, c'est que plus tu vas faire croître Jésus, plus tu vas réussir à méditer la parole de Dieu. Et je le vis de plus en plus. Plus je fais croître Jésus dans ma vie, plus je le fais croître, plus je deviens passionné, non seulement de sa parole, mais aussi des gens, mais aussi de son cœur, mais aussi de ce qui le passionne. Mais d'abord, je dois le faire croître. Je dois le faire croître dans ma vie, l'élever, me rapprocher de plus en plus de Dieu. C'est pour ça que les transitions aussi sont prévues par Dieu. Elles sont prévues par Dieu pour que nous puissions découvrir qui est Jésus, mais aussi nous rapprocher de Jésus afin de lui ressembler. Amen. Maintenant, il faut comprendre que suivre Jésus, Ça ne nous empêchera jamais d'éviter les transitions difficiles. Suivre Jésus, ça ne nous empêchera jamais de vivre des saisons de déception, des saisons de souffrance ou d'incompréhension. Mais sa présence dans nos vies nous permettra de passer en paix dans ces saisons. On n'a pas le contrôle sur comment les événements viennent nous frapper, mais on peut avoir le contrôle sur comment et en qui on va les vivre. Est-ce que tu veux les vivre dans tes peurs ou avec Jésus ? Ce choix n'appartient qu'à toi. Il faut changer notre regard des transitions. Il faut changer notre vision de la transition et le fixer sur Jésus. Ce n'est pas une saison de perdu, ce n'est pas juste une saison difficile. C'est une saison où tu peux découvrir encore plus qui est Jésus. Et j'insiste vraiment sur ce point, tout à l'heure je le répète. Mais parce qu'en Jésus se trouve tellement de ressources. En Jésus, il y a tellement de paix, de joie, de bonheur, d'abondance qui vient de lui. Et je ne veux pas que vous manquiez ce point. Jésus est la source. Jésus est une source. Jésus est notre pain quotidien. Jésus est notre paix. Il est notre joie. Jésus est notre sauveur. Amen. On est là. On est là grâce à lui, n'est-ce pas ? Il a tout accompli pour nous. Et il veut encore faire son œuvre en nous. Mon troisième point ce matin, je l'avais intitulé « Découvrir le cœur de Dieu pour la transition de l'Église ». Et je voulais vraiment m'adresser spécifiquement à l'Église ce matin, mais ça nous concerne tous. On l'a vu dans notre texte, dans Josué, Dieu appelle Josué à entrer dans un nouveau territoire. Dieu appelle Josué à entrer dans une saison de combat, dans une saison de conquête. Et je vais vous ouvrir mon cœur ce matin. Ma vision, mon espoir pour cette Église, c'est que nous entrions tous en conquête pour Châteauguay. Ma vision, mon espoir pour cette Église, c'est que nous avancions tous ensemble pour conquérir ce territoire. Non pas contre la chair et le sang, mais qu'on entre dans cette saison de conquête avec cette soif d'être ce sel, avec cette soif et cette envie d'être cette lumière pour cette ville, avec cette soif de conquérir cette ville pour le royaume de Dieu. Châteauguay est la troisième ville, la troisième plus grande ville de la rive sud. Châteauguay compte environ 50 000 habitants. 50 000 habitants. 50 000 âmes qui ont besoin d'une église, qui ne le savent pas encore, mais qui ont besoin d'une église. L'église se doit d'être la lumière pour cette ville. Nous devons être la lumière pour cette ville. Et pas juste l'église, mais toute l'église. Toute l'Église. Regardez, en Josué 1, au verset 2, il est écrit « Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple. » Personne n'a été mis de côté. Josué a eu besoin de tout le monde, de tout le peuple. Nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi. La ville a besoin de toi. Et bien plus que de toi, mais nous avons besoin de tes talents. De tes dons, de ta joie, de ton amour, de la bienveillance, de la patience, de l'esprit que Dieu a déposé sur toi et en toi. Dieu ne t'a pas donné ses dons uniquement pour ta famille ou pour ton entreprise ou juste pour toi. Il t'a donné ses dons pour son Église, pour son œuvre, pour son royaume. Ce n'est pas pour toi seulement. C'est pour ça qu'on vous demande, on vous a demandé depuis le premier jour de vous inscrire, de faire partie de l'équipe. Ce n'est pas juste parce qu'on veut des bénévoles et puis au moins on sera tranquille, on est content d'avoir des bénévoles, ça fait une bonne équipe, bonne ambiance. Non, c'est parce qu'on a besoin de toi. Nous voulons que cette église soit une belle église. On a besoin de ton sourire, on a besoin de ton amour, on a besoin de ta patience. Nous voulons rayonner et ce rayonnement ne peut être possible que si toute l'Église embarque dans ce projet. Nous ne voulons laisser personne, nous sommes un corps. Vous le savez, on est un corps. Et si ma jambe gauche veut rester sur place alors que le reste du corps bouge, il y a un problème. Nous devons avancer tous ensemble. Et les défis sont grands. Nous sommes appelés à annoncer Jésus dans une société qui rejette totalement la religion. Et dernièrement, on peut mettre la photo s'il te plaît. Je suis allé au restaurant avec des amis et arrivé aux toilettes, j'étais un peu surpris de voir la photo d'un pape juste devant un urinoir. Et c'est sûr que nous, en tant qu'évangéliques, c'est sûr qu'avec l'Église catholique, on sait que cet homme est juste un homme, etc. On va pas débattre sur la théologie des catholiques, de l'Église catholique, mais j'ai juste été frappé parce que ça ne dérangeait personne d'uriner sur un symbole de l'Église. Parce que ce pape, c'est ce qu'il représente, il représente l'Église, il est lié à l'Église, il est lié à la Bible, il est lié à Jésus. Et ça ne dérange personne de faire ses besoins sur lui. C'est dans la société dans laquelle on vit. La religion a fait un carnage. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce que nous sommes en train de découvrir en ce moment avec les différents charniers des enfants. C'est la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. L'Église, la vraie Église, doit se lever. La société a besoin du véritable message de l'Évangile. Les gens, tes voisins, nos amis, nos collègues ont besoin du vrai message de l'Évangile. Et j'ai invité Stéphane à revenir. La société a besoin d'entendre vraiment qui est Jésus. C'est pour ça que nous ne voulons pas être inactifs, c'est pour ça qu'on a besoin de bénévoles, c'est pour ça qu'on a besoin d'être actifs constamment. On veut être actifs pour la ville, on veut être actifs pour son œuvre. Et c'est Edmund Burke, c'est un auteur et un homme politique irlandais qui a dit « Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. » Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Et honnêtement, je vais être très honnête avec vous, je suis comme vous, je suis en transition et j'ignore ce qu'est l'avenir. J'ignore comment aller vers cet objectif, j'ignore comment aller vers cette idée de rejoindre les nations, de rejoindre le plus de monde possible, d'impacter, que cette église impacte la ville. Mais je garde les yeux fixés sur Jésus. Et je veux avancer avec vous, pas à pas, pour sa mission, pas à pas, pour sa gloire, pas à pas, une âme après l'autre, un cœur après l'autre, une personne à la fois. Je n'ai pas les yeux fixés sur ce que je suis capable de faire parce que sinon, je ne risquerais pas d'avancer. Mais j'ai les yeux fixés sur mon Sauveur. J'ai les yeux fixés sur Jésus parce qu'il n'y a que lui, il n'y a que lui qui sait comment faire avancer son Église. C'est Mike Horn, un grand explorateur, qui a dit « Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions. 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place. » Et voilà juste 5% des choses que je sais. C'est que si nous cherchons à œuvrer pour Christ, si nous cherchons à œuvrer pour Jésus dans la ville, il sera avec nous. Il nous l'a promis. Il nous l'a promis quand Jésus a dit en Matthieu 28:20 « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On le récite tout le temps ce verset, mais c'était vraiment dans un contexte de mission, dans un contexte d'aller faire des disciples, dans un contexte de former des disciples. Savoir que Jésus est avec nous, c'est une raison suffisante pour entrer pleinement dans la mission, d'œuvrer pour la ville, d'œuvrer pour son royaume, d'œuvrer pour qui il est. Alors, entrons maintenant tous ensemble dans la mission. Entrons ensemble, tous ensemble, dans cette transition pour aller vers l'objectif que Dieu a pour cette ville. C'est Craig Rochel qui a dit un jour, « Si vous êtes en pleine transition, voici une prière puissante. Dieu, je n'ai pas besoin de connaître les détails. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est que tu m'appelles. Et si tu m'appelles, la réponse est oui. Et je sais que Dieu nous appelle ce matin à être cette lumière pour Châteauguay, à être ce sel pour Châteauguay, à être cet espoir pour cette ville, mais aussi pour les régions qui sont autour. Je vais conclure. Après avoir traversé le Jourdain, Josué a amené son peuple, il a traversé le Jourdain, et il a amené son peuple face à la première ville, Jéricho, avec une muraille infranchissable, imprenable. Et sa tactique a été très surprenante, mais il a obéi à Dieu. Mais il n'a pas sorti les glaives. Il n'a pas demandé au peuple de s'armer, de prendre les armes et d'aller conquérir. Non. Il a dit, sortons les instruments. Sortons les instruments. Car c'est Dieu qui va faire tomber cette forteresse. C'est Dieu qui va faire tomber cette forteresse. Et vous connaissez l'histoire, ils ont tourné pendant 6 jours autour de la muraille. Et le 7e jour, ils ont tourné 7 fois autour de la muraille. Et à la fin, Josué a dit, c'est des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Et ce matin, je vous invite à vous lever. On va rentrer dans un temps d'adoration, un temps de louange. Pas seulement un temps d'intercession, mais un temps de proclamation de victoire. Je vais vous inviter ce matin à penser à une personne de votre entourage, à une personne que vous connaissez, que vous côtoyez, qui a peut-être des difficultés ou peu importe, à votre voisin, à quelqu'un de la famille, un proche de la famille, peu importe. Pensez juste à ces personnes, à une personne qui semble être inatteignable. Pensez juste à une personne qui semble avoir un cœur où autour de ce cœur-là, il y a une forteresse que personne ne peut arriver à bout, que personne ne peut détruire. Pensez juste à une personne ce matin. Je vais vous demander de louer Dieu pour ce qu'il va faire pour cette personne. Je ne vous demande pas seulement d'intercéder, Seigneur, viens la délivrer. Non, Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu vas faire. Et si ce n'est pas une personne, ça peut être un quartier. Si ce n'est pas un quartier, ça peut être la ville de Châteauguay. Mais juste, Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais la victoire est en toi. J'ignore comment tu vas le faire, mais tu vas nous donner cette ville. J'ignore comment tu vas faire, mais tu vas me donner ce voisin. Tu vas prendre ce voisin près de toi. Tu vas toucher mon enfant, tu vas toucher mon fils, tu vas toucher ma fille, tu vas toucher cette personne de ma famille que personne ne semble atteindre, mais il n'y a que toi qui peux l'atteindre parce que tu es Dieu, parce que tu es roi. Je veux qu'on commence à adorer notre roi maintenant pour cette personne. Je veux qu'on commence à adorer maintenant Dieu pour ce qu'il va faire à Châteauguay. Je veux entendre l'Église commencer à louer, à proclamer et à acclamer la victoire de Dieu sur une personne. Parce qu'il est fidèle. Et il n'y a que lui qui est capable de détruire les montagnes, de faire tomber ces montagnes. Et Seigneur, on se tient devant toi avec tellement de joie et de reconnaissance parce que nous savons que seul toi sais abattre les murailles, sais abattre les montagnes. Nous avons les yeux fixés sur toi, Jésus. On sait que tu es capable du meilleur. On te connaît. Alors merci. Merci d'avance pour ce que tu vas faire dans cette ville. Merci Jésus pour les forteresses qui vont s'abattre. Merci Jésus pour les âmes qui vont venir à toi. Merci Jésus parce que ce lieu va devenir un lieu d'espoir. Parce que ce lieu va être un lieu d'espoir. Parce que ce lieu va être un lieu où des chaînes vont être brisées. Où des chaînes vont être enlevées. Où des personnes vont trouver la vie. Vont passer de la mort à la vie. Merci Jésus pour cette œuvre. Merci Jésus pour chaque nom qui sont en train de monter vers toi. Pour chaque situation qui sont en train de monter vers toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur, notre espoir est en toi et tu es grand mon Dieu, tu es grand mon roi, tu es grand Seigneur et nous louons et nous adorons un Dieu grand, un Dieu en qui la victoire est acquise, un Dieu en qui la victoire est possible. Tu es grand mon Dieu, tu es grand mon roi.